Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ces derniers numéros des Paroles aux auditeurs de cette semaine. Le 22 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'eau. Et en RDC, les taux de desserte de cette denrée en milieu rural est d'environ 12%, malgré les potentialités hydriques du pays. Avec le soutien de plusieurs partenaires, la RDC travaille à l'amélioration de ces taux de desserte en eau potable. Quelle est la situation dans votre milieu et que proposez-vous pour améliorer la desserte en eau potable en milieu rural? Gir Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Héritier Sidiakal. Pierrot et la Mégie vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Nous recevons spécialement dans ce studio deux invités, Maître Gabin Loulendou, expert en questions juridiques au Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement, et Sébastien Delongueville, directeur du consortium OASH en RDC. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
C'est le 22 mars, demain bien sûr, que le monde célèbre la Journée mondiale de l'eau, et Parole aux auditeurs se penche sur les enjeux de l'eau en milieu rural en RDC. Aujourd'hui, vendredi, nous en parlons avec vous dans votre milieu où vous êtes, surtout ceux qui vivent dans nos territoires, villages, districts et dans les cités. Que se passe-t-il dans votre milieu? Comment procédez-vous pour accéder à l'eau potable? Mais quels sont les défis à relever dans votre milieu? Qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer? Voilà autant de questions autour de notre échange dans cette émission. Comme je le disais tout à l'heure, les invités, spécialement Maître Gabin Loulendou, bonjour.
Bonjour à Monsieur Pierrot.
Sébastien de Longueville, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci à Dieu d'avoir accepté notre invitation. On commence avec vous, Maître Gabin. Où en sommes-nous à ces jours? On sait que le problème de l'accès à l'eau potable se pose d'une manière globale en RDC, mais si nous prenons notre angle aujourd'hui par rapport à un milieu rural, où en sommes-nous en ces jours du côté pouvoir public en RDC pour la desserte de l'eau en milieu rural?
Il faut dire que concernant la desserte en eau potable dans les milieux ruraux, bon, la situation n'est pas au rendez-vous. Donc, vous savez déjà que la RDC ne va pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, ça c'est clair, et que nous savons que la population congolaise est dans sa majorité pauvre. La pauvreté est plus touchante dans les milieux ruraux, ce qui signifie que l'accès à l'eau potable dans les milieux ruraux est également très très faible. Je n'ose pas avancer des chiffres en termes de pourcentage, mais toujours est-il que les pourcentages en ce qui concerne l'accès à l'eau potable est très très faible en milieu rural. Et tous les défis sont là pour pouvoir comment les relever, etc. Donc voilà, en gros, ce que je puisse dire en ce qui concerne la situation en milieu rural.
Et les causes pour vous, c'est à quoi est due cette faiblesse des dessertes en eau potable en milieu rural?
Je pense qu'il y a plusieurs causes qui entrent en ligne des comptes. C'est que nous n'avons pas un cadre juridique et institutionnel très adapté au contexte de notre situation. Et en plus de cela, c'est que nous n'avons pas encore un environnement qui permettent, quand je parle de l'environnement juridique, institutionnel et réglementaire. Il nous manque pas mal des normes, etc. Mais en plus de cela, le problème qui se pose dans notre pays, c'est que, en particulier en milieu rural, c'est qu'il y a le problème des maintenances des ouvrages, la problématique de la maintenance des ouvrages qui sont réalisés. La RDC a quand même des financements extérieurs importants, je ne dis pas suffisants, mais quand même importants, pour pouvoir permettre de modifier la donne sur terrain, mais il se pose un problème, manque d'une vraie stratégie de maintenance, le choix technologique se pose aussi comme problème, mais aussi la qualité des ouvrages qui sont réalisés, parce que la plupart des cas, vous avez des ouvrages qui sont réalisés aujourd'hui, mais quelques mois après, ces ouvrages ne sont plus fonctionnels.
Mais là, vous avez dit la RDC reçoit un financement extérieur. pas suffisant mais important, mais ça c'est par rapport au financement extérieur, mais sur le plan interne, qu'est-ce qui est fait pour améliorer cette situation sans l'apport bien sûr de l'extérieur?
Mais vous savez que, parce qu'on parle du milieu rural, c'est que nous avons l'État, un service public qui s'appelle les SNACHER, Service National d'Hydraulique Rurale. À travers les SNACHER, l'État met un certain nombre des financements à la disposition du SNACHER pour la réalisation de forages. Mais une fois de plus, une chose est de réaliser un forage, une autre chose est de pouvoir maintenir l'ouvrage. Donc, du point de vue de la réalisation des ouvrages, on se rend compte que de plus en plus, il y a les financements pour pouvoir réaliser ces forages. Mais combien ces forages vont durer, combien de temps ces forages vont durer, c'est là l'intérêt, les défis. C'est la problématique de la maintenance des ouvrages qui sont réalisés.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs, mais avant d'aller plus loin, à Sébastien de Longueville, le consortium OSH, c'est quoi au juste?
Alors le consortium WASH, c'est 5 ONG qui ont une certaine expérience en RDC, en général plus de 10 ans, et qui ont souhaité unir leur expertise pour justement peut-être aider à développer un cadre, puisqu'effectivement il y a une absence de cadre. Et effectivement, donc ces 5 ONG ont décidé ensemble de construire une approche communautaire. Donc vraiment l'idée est de supporter les communautés à s'organiser. Et évidemment, dans ce cadre-là, on arrive à des problématiques de coordination en termes de, au niveau des zones de santé, des provinces et au niveau national. Raison pour laquelle le consortium est également en discussion avec le CANEIA de manière régulière et les autres acteurs. Le but de ce consortium, c'est d'améliorer la santé des Congolais à travers un travail spécifique sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement.
Mais il y a tout à l'heure, Maître Gabin parlait de l'environnement juridique, mais est-ce qu'on sait qu'il y a la régie des eaux ici, des fois, dans les villes qui desservent la population, il y a le programme d'hydraulique rurale, mais avec ce que vous faites en impliquant la communauté, est-ce que cela rencontre l'organisation locale, par exemple la manière dont l'eau est organisée en RDC, ou bien ça risque d'être parallèle par rapport à ce qui est déjà fait, ce que l'État congolais fait?
La question est excellente, parce que je pense qu'effectivement c'est là toute la problématique. Dans un contexte où le cadre est mal structuré, nous essayons de rencontrer évidemment et nous responsabilisons et nous posons, nous discutons avec les responsables. Mais effectivement, tout en discutant avec les responsables, on est aussi amené à accompagner le mouvement quand les responsabilités soit sont mal définies, soit les capacités sont encore trop faibles pour pouvoir répondre correctement aux attentes et aux besoins de structuration du secteur.
Et en bref, 10 ans déjà, peut-on dire que ça évolue mieux sur terrain? Y a-t-il déjà des communautés à travers le pays qui ont déjà bénéficié vraiment de l'eau potable à partir de ce de consortium WASH, quand même qu'il y a des améliorations, si on peut dire ainsi?
Alors, pour être précis, le consortium WASH a commencé en juillet 2013. Donc aujourd'hui, on en est juste à la phase de, on a fini de sélectionner 173 villages, on travaille sur 9 zones de santé et on va commencer à travailler sur la mobilisation communautaire. Puis, dans un deuxième temps, on va arriver sur les discussions pour investir sur des infrastructures qui pourraient donner l'accès à l'eau. Les grands points importants pour le consortium, c'est avant tout de prendre en compte l'approche économique qui est structurante pour le secteur et qui permet d'éviter que tous les efforts de la communauté rencontrent une barrière qui est infranchissable.
Merci. Voilà, on va revenir à vous. Il y a Mathieu qui nous appelle de Kinshasa, ici dans la capitale. Il y a Jules qui est à Bukavu et il y a Emmanuel Akalemi, 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, vous êtes avec nous ici. Bon, Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Et nous parlons de la problématique d'accès à l'eau potable en milieu rural. Vous êtes à Kinshasa, c'est vrai qu'il y a aussi des communes comme Maluku, par exemple, dans la périphérie de Kinshasa, qui sont concernées par le problème de l'eau potable. Et vu la situation, a déjà été dit par notre premier invité, Maître Gabin, qu'on ne peut pas dire que la situation elle est positive, s'il faut utiliser ce terme. Mais alors, nous allons directement voir qu'est-ce qui doit être fait selon votre milieu, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la desserte en eau potable pour ceux qui vivent dans le milieu rural.
Oui, monsieur le ministre, on parle du milieu rural, mais sans oublier que même ça c'est vraiment l'expression se pose.
Oui, Mathieu, on a des petits soucis. Je crois qu'il pleut sur la ville de Kinshasa. C'est aussi pourquoi on a des difficultés à vous suivre là. Mais si vous pouvez peut-être essayer de vous repositionner un tout petit peu, parce que là, la qualité de l'intervention va permettre qu'on puisse aller plus loin, Mathieu.
Moi, je me déplace.
On pourra voir. On va voir la ligne de Mathieu. C'est vrai qu'il y a tout à l'heure, deux minutes avant, on entend ses studios, il y a une fois de plus sur la ville. Ce qui fait des fois qu'on peut avoir des perturbations avec Kinshasa. Mais en attendant, Bukavu, c'est Jules. Jules, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, je suis avec vous. Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, en fait, Jules.
Oui.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot, de nouveau. La thématique est choisi aujourd'hui est beaucoup plus importante, M. Perrault. Comme cela a toujours été chanté partout, l'eau est la source de la vie, M. Perrault. En d'autres termes, sans eau, la vie est totalement réduite au Nil. Mais à la lire où vont les choses, on trouve que les dirigeants de notre pays, ces messages n'ont jusque-là pénétré les fonds de leur cœur à cause de l'indifférence qu'ils sont en train d'afficher par rapport au manque d'eau dans plusieurs installations ici en ville à Bukavu. Arrivé un jour ici à Bukavu, M. Perrault, vous suis en train de vous parler et vous allez totalement me donner raison. Ici à Bukavu, la majeure partie de la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau. Si vous passez par-ci, par-là, dans différents quartiers, il y a des robinets érigés par la rive des eaux qui ne servent plus les consommateurs de cette darée appréciable. Elle est devenue rare, cette darée. Dans le quartier d'où je suis en train de vous parler, à Ibanda, l'eau ne se présente que deux ou trois fois par mois. Et quelquefois, elle vient régulièrement pendant la nuit, à partir de 0h, tout en étant colorée. Et comment on peut puiser de l'eau la nuit, dans le climat de sécurité qui se vit ici chez nous à Bukavu, du jour au lendemain? À mon avis, je pense qu'il fallait que le gouvernement puisse vraiment prendre ses responsabilités. Je l'avais déjà dit, l'eau constitue la vie, M. Perrault.
Oui, Jules. Voilà, Jules, avant peut-être de pouvoir, avant qu'on se sépare, est-ce qu'il y a aujourd'hui à Bukavu, par exemple, même dans si vous avez déjà visité d'autres territoires, est-ce que les gens s'organisent pour chercher comment s'approvisionner autrement qu'est la régie des eaux?
Bon, en fait, quand vous parlez des gens, je pense que vous faites allusion à des pauvres populations. Moi, je suis en train de vous parler à Ibanda, c'est en ville. Il n'y a pas d'eau. À l'heure où je suis en train de vous parler, je me suis réveillé le matin pour chercher de l'eau, il n'y en a pas. Et je n'ai même pas rincé les dents. Chez moi, c'est Tatimpidi, mon village d'origine, Tatimpidi. Là, les gens souffrent par manque d'eau. Je pense qu'il n'y a personne comme autorité ici qui va me contredire pour dire que je suis en train de mentir.
Voilà, merci Jules.
La population n'a pas d'argent pour s'organiser à avoir l'eau.
Voilà, ça y est, il se pose des problèmes. La régie des eaux est incapable de vous donner l'eau de qualité. Vous avez dit, l'eau coule rarement et d'ailleurs de couleur jaune. Et pourtant, c'est l'eau de la régie des eaux. Et puis, les gens sont tellement pauvres qu'ils ne sont pas en mesure de s'organiser pour pouvoir accéder eux-mêmes à l'eau potable. Merci beaucoup, Jules, de nous avoir appelé de Bukavu. Emmanuel, vous êtes à Kalemie, dans la province du Katanga. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour Pierrot.
Et nous faisons le point, hein. Vous êtes à Kalemie, on sait des fois qu'il y a des problèmes sérieux d'eau potable à Kalemie, les gens ils vont chercher l'eau du lac, mais y a-t-il des organisations aujourd'hui ou des efforts qui sont fournis pour permettre à la population de Kalemie d'accéder à l'eau potable?
Eh bien, je tiens d'abord à remercier la radio Capi qui informe la population au plus profond du coin du pays. J'aimerais mieux parler des Congolais qui est mon territoire parce que je suis en transit à Kalemie. J'ai profité de cette occasion pour en parler aussi.
Alors vous parlez du territoire des Congolais dans le Katanga. Allez-y alors.
Oui, je voulais dire que mon territoire des Congolais qui est à 0 mètre de l'eau du fleuve n'est pas servi en eau potable. Il y a soi-disant la régie des eaux qui a le monopole de distribuer de l'eau qui n'est pas à la hauteur de servir de l'eau. D'autant plus qu'il y a certaines ONG qui arrivent avec des projets sous prétexte projet d'addiction d'eau ou de curage des puits pour servir la population. Mais ces ONG-là, et même la régie des eaux, personne n'arrive à satisfaire la population de Congolo en eau potable. Alors que l'eau, c'est la vie. J'ose croire même, dans les 5 chantiers du chef de l'État, il a parlé de l'eau. Mm-hmm. Mais si on ne savait même pas servir la population de l'eau, qu'est-ce qu'on servirait encore à la population, M. Pierrot?
Mais pour vous, Emmanuel, aujourd'hui, s'il faudrait que la population des Congolais qui a 0 mètre du fleuve puisse avoir l'eau potable, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez pour votre milieu?
Je propose d'abord au gouvernement de privatiser la situation pour que tout un chacun puisse avoir le pouvoir de venir investir en eau, parce que la population seule ne saura pas sortir de l'eau du fleuve et commencer directement à la consommer, parce que c'est une eau qui n'est pas encore travaillée. Mm-hmm. Mais il faudra qu'il y ait des investisseurs qui vont travailler dans le domaine de l'eau, qui pourront distribuer à la population de l'eau potable, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Emmanuel. Pour vous, il faut carrément privatiser les secteurs de distribution d'eau, et comme ça, ça permettra à ce que des investisseurs viennent à Congolo, par exemple, investir et permettre à la population d'avoir l'eau potable. Merci. Elodie, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour, Elodie.
Bonjour, Pierrot. Et bonjour à notre invité. Merci aussi pour le choix du sujet parce que c'est arrivé au moment opportun.
Mm-hmm.
Nous, ici à Guémena, il y a des années, on avait eu de sérieux problèmes d'eau. Mais ça peut faire 2 à 3 ans, dans la troisième année, on n'avait pas ces problèmes d'eau ici. Curieusement, depuis cette semaine, à partir du lundi, notre régie des eaux a un problème et il nous alimente plus en eau potable. Maintenant, la pratique qu'on avait oubliée il y a des années, courir dans des puits d'eau, courir dans des sources d'eau qui ne sont même pas entretenues, qui n'offrent pas d'eau potable. Comme ça, vous pouvez vous imaginer, vous buvez de l'eau, c'est comme si vous buvez un sérum. Donc, un eau qui a goût du sel, hein, c'est pas bon. Bon, pour moi, je voulais seulement conseiller, parce que je sais la radio Capi est suivie partout, même ces autorités de régie des eaux de la place, il ne peut pas manquer une personne qui suit cette émission. Mais parce que nous achetons un bidon de 20 litres et de 25 litres à 150 francs congolais. Et pour toute une ville de Guémena, même si je n'ai pas l'imagination des nombres d'habitants, c'est une grande ville. Et cet argent-là, ça peut servir aussi à entretenir leur matériel, parce qu'ils disent que s'il y a la pompe d'injection, qu'il y a une panne d'ici là. Mais nous tendons vers toute une semaine, nous souffrons pour avoir de l'eau. Recourir dans des puits d'eau. Ces eaux-là ne sont pas bien entretenues. Dans des sources, ici à Guémena, on a un principe qui dit l'eau qui coule n'a pas de microbes. Mmh. Il suffit que cette eau soit claire et que ça coule, c'est un eau potable. Et pour l'eau claire n'est pas un eau pure. Et pour c'est pas tout l'eau qui coule qui n'est pas contaminée. Alors nos autorités ici de Guémena, même au niveau national que province, doivent un peu mettre un recul. Et puis les audits pour nos services ici de régie des eaux. Ils nous disent, parce que je sais que ces derniers temps, ils sont en train de recevoir des appuis. Ils sont en train de coopérer avec l'Union européenne, notre régie des eaux ici à Guémena.
Mais Elodie, vous avez suivi. S'il vous plaît, Elodie, oui. Vous venez de suivre tout à l'heure Emmanuel. Lui, il a pensé que pour résoudre le problème, il faut carrément privatiser le secteur de l'eau. Et vous vous rendez compte que la régie des eaux n'est plus à mesure de satisfaire à vos besoins en termes d'eau potable aujourd'hui. Alors, quelle est l'autre voie? Quelle autre voie on peut emprunter aujourd'hui?
Bon, ce que j'ai toujours regretté, c'est que s'il faut, parce qu'à chaque secteur de notre pays, tout ne marche pas. On va commencer à privatiser tous les secteurs de notre pays. Finalement, quel sera notre pays? Si on veut parler d'un autre domaine, il y aura de ceux qui vont dire seulement...
Privatiser, bon, hein. Vous avez peur, oui.
Merci.
Merci beaucoup, Elodie. Depuis une semaine à Guémena, les gens recourent à des puits, à l'eau des sources, parce que la régie des eaux a des problèmes, une panne. Mais vous avez peur que si on propose encore la privatisation, comme beaucoup des secteurs ne marchent pas, on risque alors de tout privatiser en RDC. Merci beaucoup de cet appel. La Guillois, vous êtes à Kalemi, dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à Maître Gabin. C'est la question qui compte ma vie.
Oui, la Guillois, déjà, on a des petits soucis hein, avec votre ligne téléphonique. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, bon, on ne sait pas, on a des petits soucis. Mais dis-moi, nous avons eu tout à l'heure Emmanuel qui est à Kalemi de passage. Hein, il nous a parlé de la situation de Congolo. Mais vous, à Kalemi, comment la population aujourd'hui se débrouille-t-elle pour avoir l'eau potable?
Merci, M. Pierrot, de la parole. Et aussi de votre volonté que vous nous accordez pour ce débat qui intéresse toute la population de la FDC et de Kalemi en particulier. Je pense que l'eau et l'électricité ne sont pas que de terre. C'est pour cette raison. Le secteur de l'eau a de multiples problèmes, voire est germe des maladies d'origine. Le fait d'avoir l'eau et l'électricité n'est pas une faveur, mais c'est un droit sur le peuple congolais, car la loi fondamentale du pays, c'est la constitution. C'est tout le pays.
Oui, il a dit là, comme on a des petits soucis, de ligne avec vous, pourriez-vous aller tout droit au but, la situation des Kalemi, comment les gens se débrouillent pour avoir l'eau potable et ce qu'il faut faire pour améliorer un peu rapidement, parce que là on a du mal à vous suivre d'une manière nette et claire. Hein.
Oui, merci M. Pierre. Je pense que la population des Kalemi est en train de souffrir. Du fait qu'on a constaté les bonnes fontaines qui sont plantées à Kalemi, ne servent même pas une manière suffisante de la part de la population pour s'approprier de l'eau. Et surtout, vous allez voir, lorsqu'il y a plus de l'indice, la SNACM annonce le message à travers le CNU, c'est-à-dire le CAP, pour dire que la régie des eaux va voler de ses propres ailes. Pour moi, c'est une connaissance que le peuple congolais a droit à l'eau. Et je pense que je vais ajouter aussi une chose de la part de M. Emmanuel, qui est du Congolo. Je pense que tous les peuples congolais sont égaux, même si la petite dans des histoires. Ici, les paysans ne bénéficient rien de pouvoir pour mieux améliorer ce que c'est. Le gouvernement doit créer des nouvelles lignes centrales hydroélectriques qui pouvaient, dans un premier temps, réduire le temps, frapper les problèmes de privatisation et de déchets qui en ont plus.
Merci beaucoup Laguillois. Mais dis-moi, vous dites à la régie des eaux, à Kalemi a des problèmes et vous proposez que le gouvernement d'abord commence d'abord à créer des mini centrales hydroélectriques qui doivent permettre à la régie des eaux, là où elle travaille, elle fonctionne, de pouvoir travailler sans problème, parce que souvent la régie des eaux pose le problème de l'électricité quand elle n'est pas à mesure de fournir l'eau potable à la population. Merci beaucoup Ismaël, vous restez vous gardez la ligne à partir de Lubumbashi. On revient à nos invités pour placer un mot par rapport à ce qui a été dit. Maître Gabin, vous avez suivi, la situation est la même. On sait qu'on a des difficultés, la régie des eaux a des difficultés. Mais il y a Emmanuel qui pense que pour lui, la solution c'est la privatisation du secteur de l'eau. Si on privatise, cela peut résoudre le problème. Ceux qui ont des moyens peuvent descendre aujourd'hui à Kongolo, à Kalemi, à Gemena et investir, permettre à ce que la population puisse avoir l'eau potable. Est-ce qu'on a déjà envisagé une telle option au niveau du pouvoir public en RDC?
Je dirais oui, parce que la régie des eaux est en pleine restructuration. Mm-hmm. Donc on ne restructure pas ce qui marche très bien. On a constaté que la régie des eaux n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés et des réformes étaient nécessaires pour permettre à la régie des eaux, les réformes sont nécessaires pour permettre à la régie des eaux de mieux jouer son rôle. C'est pour cette raison que la régie des eaux est en pleine restructuration. Donc nous espérons qu'à la fin de la restructuration, les choses pourront bien marcher, parce que la situation n'est pas bonne, comme les auditeurs l'ont souligné. Je voudrais aussi placer un mot en disant que il y a un auditeur qui a proposé, qui a dit que la régie des eaux se trouve toujours dans une situation de monopole. Non, c'est une clarification qui mérite d'être donnée. Mmh. Et il y a eu la loi des désengagements de l'État du secteur marchand. L'État s'est désengagé du secteur marchand. C'est ce qui fait que les entreprises publiques sont devenues soit sociétés commerciales, mmh, soit établissements publics, soit les services publics. Ce qui signifie que la régie des eaux aujourd'hui est devenue une société commerciale. La régie des eaux cesse d'être une entreprise publique, devient une société commerciale, et les monopoles, la régie des eaux est tombée juridiquement. Mm-hmm. Les monopoles est tombée. Ça signifie que aujourd'hui, les cadres juridiques existants, les privés peuvent venir à investir dans les secteurs de l'eau. Tout est question de pouvoir régler encore un certain nombre de problèmes liés au périmètre, etc. Parce que même si la régie des eaux aujourd'hui n'a plus les monopoles, mais la régie des eaux conserve quand même un monopole naturel. Mm-hmm. Enfin, les monopoles légaux disparaissent, mais les monopoles naturels demeurent. Parce que prenons la ville de Kinshasa, par exemple. Vous avez les installations, la régie des eaux, etc. Aujourd'hui, un opérateur privé ne peut pas avoir d'autres installations dans la même ville de Kinshasa.
Et ça, il faut clarifier.
Voilà. C'est pour cette raison, bien évidemment, qu'il faudrait, il y a un contrat de concession qui est en préparation entre l'État congolais et la Régie des eaux. Je pense que ces contrats de concession devraient régler le problème des périmètres pour savoir jusqu'où va les périmètres de la Régie des eaux pour permettre justement à d'autres acteurs, à d'autres investisseurs qui pourraient bien évidemment venir investir dans les secteurs de l'eau pour améliorer la situation.
Et Sébastien de Longueville, il y a tout à l'heure, on a parlé des forages, il se pose un problème. Bon, qu'est-ce que vous qu'on peut souhaiter aujourd'hui, vu les difficultés, par exemple, l'accès à la technologie dans nos milieux, alors qu'on a beaucoup de petites rivières, des cours d'eau qui traversent presque tous nos villages, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on peut privilégier aujourd'hui dans l'approche pour permettre à la communauté d'avoir de l'eau? Ce sont des forages ou des sources aménagées qui peut-être peuvent coûter moins, les travaux peuvent pas prendre beaucoup d'argent. Et puis, ça ne demande pas aussi de grands efforts d'entretien comme avec un forage, par exemple, dans le village.
Tout d'abord, effectivement, alors si j'avais la solution, ça serait super. Je pense que ce qui est important de considérer, c'est avant tout une approche logique. Quand vous achetez une voiture, si vous n'avez plus de quoi mettre du carburant dedans la semaine d'après, vous ne pouvez plus utiliser la voiture. Pour ce qui est d'un puits, d'un forage ou d'un captage d'eau ou autre, c'est exactement la même chose. Donc là, c'est important. Après, c'est un peu plus complexe parce qu'évidemment, vous n'êtes pas seul à acheter la voiture. C'est l'ensemble d'une communauté, d'un village, d'un quartier, d'une ville ou d'une ville qui fait les investissements et que du coup, forcément, les responsabilités sont déléguées. Là où c'est important également, c'est que les différents niveaux, que ce soit au niveau des zones de santé, au niveau des provinces, ont également des responsabilités et des politiques qui structurent ou qui seraient censées structurer le développement de ces facilités. Donc évidemment, c'est extrêmement important. Un petit mot quand même sur la privatisation, évidemment. C'est une des solutions et il faut absolument pas l'écarter. Maintenant, il faut faire attention parce que dans le cadre d'un marché qui n'est pas structuré, où il y a une absence de normes, la privatisation peut être également extrêmement dangereuse. Et l'importance pour nous, les ONG et le consortium, c'est de faire attention à ce que les plus pauvres et les plus démunis ne soient pas complètement exclus de ce genre de services basiques, parce qu'effectivement, ça paralyse toutes les possibilités de développement et que c'est ces gens-là qui ont le plus besoin d'améliorer leur niveau de vie. Voilà.
Donc mais ça, c'est important de l'expérience peut-être d'autres pays. Quel est le rôle exact de la communauté locale dans la gestion des projets des lots? C'est quoi au juste le rôle de la communauté locale? C'est d'y rester et d'attendre que les bailleurs des fonds viennent, que le gouvernement vienne vous donner des lots, ou il y a des efforts qui doivent être fournis au niveau de la communauté locale? Ça peut être en termes de quoi?
Ouais, je crois que c'était une question centrale. Les auditeurs ont dit l'eau, c'est la vie, c'est la source de vie. Si c'est la vie, c'est la source de vie, oui, on a besoin qu'ils se mobilisent, c'est aussi leur affaire. Évidemment, les bailleurs peuvent aider et contribuent, mais avant tout, c'est leur problème. Donc, c'est très important, effectivement, qu'ils se mobilisent, qu'ils se concertent, qu'ils donnent les priorités des problèmes à adresser. Et c'est vraiment tout le cœur, en fait, du travail du consortium dans les villages, c'est de les aider à s'organiser, de les aider à prioriser et de faire qui de l'advocacy et du plaidoyer sur certaines solutions, qui de réfléchir à comment s'organiser pour collecter l'argent et garder une caisse d'eau qui permette d'assurer la maintenance. Maintenant, par exemple, on peut juste adresser la question du problème du système bancaire. L'absence de banque au Congo, notamment au milieu rural, crée une problématique quand on a un forage qui peut coûter jusqu'à 15 ou 20 000 dollars et qu'il faut épargner sur 20 ans. Comment voulez-vous demander à des communautés de faire cet effort sans support type du système bancaire? Donc il y a énormément de problématiques, mais je pense qu'effectivement les communautés doivent se mettre en marche. Le but du consortium, c'est de les aider à se remettre en marche quand elles ont un peu baissé les bras ou que des fois elles ne savent pas par où commencer.
Voilà, Maître Gabin, il y a au-delà de tout, hein, je sais que c'est pas seulement la Régie des eaux, on sait qu'il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère du Développement Rural, il y a autant de ministères, il y a tout ça qui au moins ont la responsabilité sur l'eau, en est-on aujourd'hui avec le code? Parce qu'on sait aussi qu'il faut quand même définir clairement qui doit en principe avoir la main, à qui on doit s'adresser quand on a besoin de parler de l'eau. Et là, je me suis rendu compte que nous avons autant des ministères qui gèrent l'eau, si on peut le dire ainsi. Où en est-on aujourd'hui avec les codes?
Oui, c'est vrai, la problématique du code de l'eau demeure et toujours d'actualité pour la simple bonne raison que les pays ne disposent pas d'un cadre légal qui régisse les secteurs aussi vitaux comme l'eau, ce qui est tout de même à déplorer. Et des efforts ont été faits. Et nous avions à l'époque, en tant qu'experts, participé à l'élaboration de l'avant-projet portant code de l'eau qui a été transmis aux autorités gouvernementales, mais ce texte avait pris un peu de retard et qu'en fin de compte un honorable sénateur a pu amener un dossier au niveau du Sénat, proposition de loi sur la gestion de ressources en eau, et que voyant que les textes ne prenaient pas vraiment en compte l'aspect lié au service public de l'eau, c'est-à-dire service d'approvisionnement en eau potable. Nous avions également été associés au niveau de la commission du Parlement pour pouvoir apporter un certain nombre de modifications nécessaires, et ces modifications ont été apportées pour intégrer la dimension approvisionnement en eau potable, et que ces documents ont été votés au niveau de la chambre haute du Sénat, et qu'il a été transmis au niveau de la chambre basse. Mais depuis sa transmission au niveau de la chambre basse, la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et donc je pense que c'est plus qu'urgent que le pays puisse être doté d'un cadre juridique, parce que ce cadre juridique va permettre quand même que pas mal de choses puissent évoluer. Rien ne peut évoluer sans un environnement légal, institutionnel favorable.
Oui, on va écouter encore les auditeurs, mais Sébastien de Longueville, un mot par rapport au code. On dit, c'est arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, on entend, mais y a-t-il aussi, à côté de ce que vous faites, un plaidoyer par rapport à l'accélération de ce processus pour se doter de ces codes?
Évidemment, je parlais de cadre, et on a besoin de cadre, et nous travaillons pour pousser les autorités à poser ce cadre. Donc je suis tout à fait en accord avec Gabin sur ce sujet. Il est important de mener à terme cette procédure, et il faut qu'on le fasse dans les plus brefs délais. C'est ce qui empêche globalement d'avancer véritablement. Un cadre législatif clair qui permette d'établir les droits, les obligations des différentes parties, qui permette de favoriser aussi une sécurité juridique par rapport à cet accès à l'eau, parce que c'est un vrai problème. Et puis assurer la cohérence de l'application des grands textes sectoriels.
Voilà. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, Galvani à Mbujima et Maurice à Kinshasa. Je rappelle encore, journée mondiale de l'eau, c'est demain, 22 mars. Et Parole aux auditeurs se penche sur la problématique de l'eau en milieu rural. Là, on a eu plusieurs émissions pour parler de l'eau en ville, mais cette fois-ci en milieu rural, les enjeux, qu'est-ce qui doit être fait pour permettre à la population d'accéder à l'eau, vos propositions et points de vue sont les bienvenus. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais je vous rappelle encore que nous avons deux invités spécialement dans cette émission, Maître Gabin Lolendou, qui est expert en questions juridiques au Comité national d'action et de l'eau et de l'assainissement, et Sébastien de Longueville, directeur du consortium WASH en RDC.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans les Katanga. Bonjour. On vous écoute.
Je suis vraiment étonné d'avoir commémoré cette journée ici au Congo. La situation de l'eau à la ville de Lubumbashi, c'est une situation très, 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 très difficile. Nous voyons la pluie ici à partir des mois de novembre, décembre. À partir de ces mois, nous n'avons que 3 mois de pluie. Là, nous consommons de l'eau et on est à l'aise.
On peut soit faire la lessive, toute chose est possible. La situation géographique de la ville de Lubumbashi n'est pas une situation non repérée. Dans le sens que on peut avoir un robinet dans une distance d'un kilomètre, de 3 kilomètres, de 5 kilomètres pour avoir ensuite un autre robinet. Au mois de septembre, ça commence une difficulté. Les puits grésés manuellement, ça va tarir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous attendez. Il y aura même des violences ou des vols sur les femmes qui cherchent de l'eau. Et on se réveille à 13 minutes pour avoir l'accès à l'eau. Dans un robinet où vous trouvez 1000 personnes, Piero, mon homme, c'est très difficile.
Mmh.
Et les soucis majeurs, par exemple, le besoin, à tous ceux qui ont débattu les campagnes, ils ont dit l'eau et l'électricité. Ce sont les deux amis, l'eau et l'électricité. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, ici, dans une commune où j'habite? La régie des eaux fixe les montants pour que celui qui prend de l'eau, soit celui qu'on opère chez lui, et il y a un robinet. Pour qu'un autre prenne d'abord le robinet, qu'on installe chez lui, il a fallu s'écouler 7 ans. Vous voyez d'abord la difficulté, non? Et encore l'urbanisation qui n'était pas tenue, qui n'était pas reçue. C'est ce que je vais dire. Avant de donner la ville, parce que je vis souvent dans d'autres pays, j'ai vu un quartier, avant d'installer un quartier, on passe d'abord avec les traces de robinets. Puis on installe les robinets, puis on distribue aussi des parcelles. C'est ça, c'est crié.
Oui, mais quand on regarde aujourd'hui, eu égard à cette situation, Ismaël, on sait qu'il y a les difficultés de la régie des eaux, ici à Kinshasa, ailleurs aussi, on voit comment ces problèmes de l'urbanisation se posent. Hein. Mais alors aujourd'hui, pour résoudre tous ces problèmes, qu'est-ce que vous proposez?
Je vous cite maintenant. Maintenant, le forage ici, l'ONGD qui fait le forage, il fait à 1 500 $. Maintenant, pour soulever le conteneur, ça arrive jusqu'à 5 000 $. Est-ce que tout le monde s'organise pour avoir 5 000 $ pour perforer et avoir de l'eau? C'est tout à fait difficile. Si par exemple on commence à la réduction, soit si la régie des eaux aujourd'hui pour réussir le problème de l'eau à Lubumbashi, on commence avec le problème de puits, des fontaines. Si on va aux fontaines, on peut acheter de l'eau facilement parce que les bidons d'eau ici c'est 100 francs. Et il y aura maintenant un moment où ça va aller très loin. On commence à acheter de l'eau au robinet social. Là, ça peut aller. Qu'on multiplie. Si on ne multiplie pas, on aura toujours...
Les problèmes vont... Oui, il y a trois de problèmes à Lubumbashi. Merci beaucoup, Ismaël. Tout le monde n'a pas les capacités, les moyens de pouvoir procéder à un forage. Hein. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Mais si la régie des eaux parvenait à multiplier le nombre de points de distribution d'eau, ça peut résoudre le problème. Mais il y a des dégâts collatéraux. Vous avez parlé à des femmes qui doivent se retrouver la nuit à 2 heures très tardives à la recherche de l'eau, à des 5, 2, 3, 4 kilomètres, c'est vraiment, elles sont vraiment insécurisées, hein, quand on doit trouver des jeunes filles, on le voit même dans la ville de Kinshasa aussi, cela arrive. Merci beaucoup, Ismaël. Vous avez parlé tout à l'heure de l'énergie, hein, c'est juste pour vous rappeler, si vous l'avez suivi aussi sur Radio Capi ce matin, la thématique a été utilisée, retenue par l'ONU pour célébrer cette journée, c'est l'eau et l'énergie. Vous savez, il y a cette relation entre l'eau et l'énergie, vous l'avez dit, la régie des eaux dit chaque fois, je ne suis pas en mesure de vous donner de l'eau parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et d'ailleurs, à Radio Capi, on a dit, quand vous posez la question à la SNEL, elle vous dit, non, voilà, il y a baisse de l'eau au niveau de l'océan ou quoi, du fleuve, je ne suis pas à mesure de fournir d'électricité. C'est que les deux sont intimement liés. Alors, quand on résout le problème de l'eau, il faut résoudre celui de l'électricité. Celui d'électricité va aussi résoudre celui de l'eau. Merci beaucoup, Ismaël Galvani. Vous êtes en Boujmaï, dans la province du Kassai oriental. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Je sais qu'il y a 2-3 semaines, hein, on vous avait suivi dans l'émission au Capi Service le problème qui se pose dans la ville de Boujmaï en termes de dessertes en eau potable aujourd'hui. Et au-delà du fait de ce que la régie des eaux fait, quels sont d'autres efforts qui sont fournis en Boujmaï pour améliorer la desserte en eau Galvani?
Merci pour la parole. Comme vous le savez déjà, que la problématique d'accès à l'eau potable est dans la ville de Boujmaï, si pas aussi dans tout le Kassai oriental, est vraiment un casse-tête. Vu d'abord aussi le manque d'énergie qui se pose dans la ville de Mboujimaï, parce que vous avez aussi parlé du jeu des ping-pong qui est entre la SNEL et la régie des eaux. Lorsque la régie des eaux manque comment desservir la population, elle jette le problème sur la SNEL et la SNEL aussi mêmement. Et aussi concernant, il y a eu certains efforts qui ont été faits dans le sens d'installer les bornes fontaines. Il y avait la fondation MIBA qui s'était aussi lancée avec l'appui de la coopération technique belge. Mais malheureusement, ces bornes fontaines qui ont été mises, mais aujourd'hui, si vous essayez de circuler dans des milieux où elles étaient mises, pour moi, elles n'existent presque pas ou elles ne fonctionnent pas. Vu peut-être la mauvaise gestion du comité qui avait été mis en place pour gérer ces bornes fontaines, et aussi la population aussi, qui essaie un peu, qui essaie aussi de contribuer avec le peu qu'on leur demandait pour vraiment entretenir ces bornes fontaines. Maintenant, dans le milieu rural, le dimanche, j'essaie un peu de faire un petit déplacement en dehors de la ville de Mbujumaï juste pour quelques minutes. Mais je veux que si d'abord dans la ville de Mbujumaï la situation reste encore difficile, dans le milieu rural c'est presque pire. Parce que nous avons vu que vous avez toute une famille pour se laver, c'est à la rivière l'eau bilangée, faire la lessive, la vaisselle, tout, et même l'eau potable, l'eau à boire, on la puise toujours dans la rivière. Et ce qui n'est pas aussi bien. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors la régie, il faut que l'État puisse doter de moyens à la régie des eaux, non seulement de doter de moyens, et aussi faciliter s'il faut mettre des bornes fontaines, et aussi mettre un comité qui pourra bien gérer cette eau-là, et aussi sensibiliser la population parce qu'elle doit aussi contribuer. Si d'abord on met d'abord ces bornes fontaines et que la population n'arrive pas à contribuer avec le peu qu'on lui demande même pour payer cette eau-là, ça sera aussi un problème.
Merci beaucoup Galvani. Là, il se pose un problème. Leur expérience avec la Fondation MIBA et la coopération technique belge, les bornes fontaines qui aujourd'hui ne sont plus en mesure de fournir l'eau à la population. Et vous avez posé, il faut trois choses. Il faut d'abord la construction des bornes fontaines, mais il faut la gestion et la contribution de la population. Voilà les trois piliers, si je peux utiliser ces termes pour vous, avoir des bornes fontaines. Mais il faut former les gens qui doivent gérer ça. Et après, il faut sensibiliser la population à pouvoir faire le pas pour permettre à ce que ces bornes puissent continuer à fonctionner. Merci beaucoup Galvani Maurice. Vous êtes dans la capitale à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Pirou.
Et je sais que le problème de l'eau se pose dans la ville de Kinshasa, mais comme nous avons ciblé l'angle milieu rural, je sais que de temps en temps, vous faites le tour du Congo. Une fois, vous avez été avec nous en direct de Goma et ailleurs. Et aujourd'hui, comment on peut résoudre ces problèmes de l'eau en milieu rural, Maurice?
Tout à fait. Je vais réellement vraiment être dans le milieu rural aujourd'hui. Mais avant que je n'arrive, je voudrais d'abord dire ceci. L'eau, c'est la vie. Il y a des auditeurs qui l'ont dit avant moi. L'eau, c'est la vie. Et priver de l'eau à une communauté, à une personne, c'est lui priver la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment criminel. C'est méchant, c'est criminel. Alors, vous allez voir que dans le pays sérieux, lorsque vous avez un problème de paiement, vous avez des arriérés, des factures d'eau, on n'interrompt pas la fourniture d'eau, mais on le fait avec le courant, avec l'électricité, comme je l'ai vu en Afrique du Sud dernièrement. C'est-à-dire, c'est une manière de démontrer les rôles que joue l'eau dans la vie humaine. Et ailleurs, par exemple en Europe, et l'eau et l'électricité, on n'interrompt pas, même si vous avez des retards, on sait comment ils compensent à cela. C'est-à-dire que c'est un problème, normalement, des priorités. Ici, chez nous, par exemple, j'ai été une fois dans les districts de Kouango, et notamment dans les 5 territoires qui constituent ces districts. Donc j'ai été à Kaemba, j'ai été à Kenge, j'ai été à Péchi, j'ai été à Popokabaka et Kasongolunda. Et qu'est-ce que j'ai constaté dans ces 5 territoires? Il n'y a aucune borne fontaine. Il n'y a pas la présence d'une seule pompe là-bas. Et dans une cité comme Kasongolunda, où on compte plus de 100 000 habitants, et les gens vont consommer de l'eau comme vous voyez la rivière Ndjili, je ne sais pas, vous pouvez vous imaginer des victimes des maladies hydriques. Alors, ce que je dois dire, en fait, par rapport à cette problématique, vous allez constater que nous avons un système de gouvernance trop irresponsable. Vous voyez que le problème d'eau dont on décrit aujourd'hui, c'est un problème qui doit, au fait, se situer dans la même catégorie des priorités des priorités, même dans la catégorie des urgences. Comme on le voit à chaque fois quand il y a, par exemple, guerre, quand il y a catastrophe naturelle, la manière, l'énergie, qui est déployée juste pour faire face à ces situations,
ça devrait aussi se manifester à travers, par exemple, la fourniture d'eau à ceux qui en manquent. Mais ici, vous voyez que quand il y a problème de guerre, on s'attaque, on dérange le budget. Mais pour donner de l'eau, donner la vie aux Congolais, c'est vraiment de la blague, de la complaisance. On voilà. préfère faire de musée, par exemple.
Voilà, c'est que si on peut retenir Maurice pour permettre à d'autres auditeurs d'intervenir, parce que là on a beaucoup de personnes sur notre standard, mais il y a aussi le des invités. S'il faudrait bien Maurice, c'est qu'il faut d'abord que la question de l'eau soit considérée comme une priorité au niveau du gouvernant. Dès lors que la question n'est pas prioritaire pour eux, ça sera difficile de voir le pouvoir public s'investir dans les secteurs de l'eau, voir comment améliorer la desserte pour les populations qui vivent en milieu rural. Merci beaucoup Maurice de nous avoir appelé de Kinshasa. Alphonse, vous êtes à Arou, en province orientale. Bonjour, Alphonse.
Bonjour, Pierrot. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter la vraie cartographie du milieu rural où je suis, par exemple.
Vous êtes à Arou, Pierrot, en province orientale, oui. Oui. Allez-y rapidement, oui.
Oui. Donc, la desserte en eau potable en milieu rural est vraiment catastrophique chez nous ici. Mm-hmm. Vous allez voir beaucoup d'éleveurs et même de cultivateurs, y compris leurs familles et leurs bétails, sont en train de boire de l'eau des puits traditionnels, des sources à ciel ouvert. Même l'eau des pluies et pourquoi pas beaucoup d'eau de cours d'eau qui regorge vraiment une couche de feuilles extraordinaire où s'épanouissent les algues, les grenouilles, même la sanction, et j'en passe. Et cela aussi est au vu des autorités politico-administratives et sanitaires, Pierrot. Alors c'est malheureux et regrettable pour un pays comme la République démocratique du Congo, dont la moitié de la population rurale réside en campagne, où les conditions d'accès en eau potable laissent à désirer. Or, c'est cette population qui pouvait propulser le développement si elle était en bonne santé. Alors, selon le 7e objectif du millénaire pour le développement, c'est-à-dire préserver l'environnement, il a été observé que beaucoup d'enfants meurent, donc les enfants des familles rurales et des bidonvilles, parce qu'ils sont très exposés à l'eau et aux aliments contaminés. Alors, l'OMS ajoute que la bonne qualité de l'eau des boissons est d'une importance particulière pour la santé publique que n'importe quel vaccin ou médicament. Alors cette eau ne doit pas contenir de germes nocifs.
Voilà, mais Alphonse, si on regarde la situation à Arou, on sait que c'est à des centaines de kilomètres de la ville de Kisangani aujourd'hui, est-ce qu'il y a des efforts au niveau de la communauté du territoire, des ONG, pour permettre quand même à la population d'accéder à une eau de qualité aujourd'hui à Arou, Alphonse, un peu rapidement?
En tout cas, merci pour la question. Je voulais directement vous donner mes propositions, mais par rapport à votre question, vraiment, des ONG, les autorités politico-administratives, il n'y en a presque pas. En tout cas, presque pas. Alors, je voudrais vous proposer...
Rapidement, en 30 secondes, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants sur les standards, oui.
Oui. Voilà, je voulais dire ceci, il faudrait qu'il y ait une éducation et une sensibilisation de la population sur l'hygiène, le stockage et la purification d'eau. Il faudrait l'appui financier et technique du gouvernement, des ONG, des techniciens en développement rural qui œuvrent dans le domaine d'aménagement, de réhabilitation des sources d'eau. Vous n'avez même pas parlé des bornes et fontaines.
Merci beaucoup, Alphonse, parce que là on est bousculé par le temps. Il faut sensibiliser la population et puis accorder à la population de montrer les techniques de purification d'eau, mais il y a un engagement qui doit aussi être observé, que ce soit le pouvoir public, les ONG, pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable à Arou, en province orientale. Nous allons tout à l'heure aussi accorder la parole à Lisa Rudge, qui est Wash Program Manager à la coopération britannique. Tout de suite, elle va nous dire ce qui s'est fait au niveau de coopération britannique par rapport à l'accès à l'eau, et peut-être aussi une autre préoccupation pour nos deux invités.
Parole aux auditeurs.
Nous avons en ligne Lisa Rudge, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et mes amis sur le plateau.
Et qu'est-ce qu'elle fait la coopération britannique en termes d'eau en RDC d'une manière brève?
La coopération britannique en RDC finance des projets d'eau potable en milieu rural et urbain. Nos investissements jusqu'à présent, jusqu'en 2013, ont été de l'ordre de 35 millions de dollars sur le programme Village et École Assainie. À partir de maintenant et jusqu'en 2019, nous avons prévu un investissement de 164 millions de livres. Une grande partie de cela en milieu rural, au travers du programme Villager École d'Assainie, mais aussi au travers du soutien à un consortium WASH, donc consortium de l'eau et l'assainissement et de l'hygiène. C'est un consortium d'ONG international qui interviendra au niveau communautaire. Et tous les programmes se font donc en soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo et en lien étroit avec le gouvernement.
Mais Lisa, il y a deux intervenants avec nous ici au studio. On entend déjà vraiment vers la fin de cette émission. Et par rapport à la collaboration entre le pouvoir public et ce que vous faites, avez-vous une préoccupation pour nos deux invités qui sont avec nous ici?
J'ai plusieurs préoccupations, je les nommerai pas toutes. Le but aujourd'hui, c'était plutôt de parler de la pérennité des points d'eau en milieu rural. Et c'est une discussion que j'ai déjà eue, notamment avec Maître Gamin. C'est autour de l'importance de cette pérennité à assurer un accès à l'eau potable en milieu rural dans le temps pour les Congolais. Et nous savons aujourd'hui que c'est sur les points d'eau individuels comme des pompes à motricité humaine, c'est quelque chose qui est très difficile d'assurer dans le temps. Et donc, je voulais demander à Maître Gamin peut-être de se prononcer au nom du gouvernement sur quelle stratégie de mise en œuvre est-ce qu'on peut imaginer en RDC pour améliorer la pérennité de ces points d'eau. Est-ce que c'est intervenir au niveau municipal? Est-ce que c'est renforcer le secteur privé? Voilà, quelles options existent-ils et quelles seraient les options les plus viables en RDC?
Merci beaucoup, madame, d'être intervenue dans cette émission. Je rappelle encore à nos auditeurs que c'est Lisa Rudd qui est WASH Program Manager, ça en anglais, à la coopération britannique. On revient à nos deux invités parce que là, on doit terminer cette émission. On a écouté les auditeurs, Maître Gabin. Une question vous a été posée directement au-delà de ce que nous avions déjà évoqué sur les premières interventions de nos auditeurs. Et commentant déjà vers la fin, la réponse que vous donnez à Lisa et puis aussi ce qu'on peut retenir en définitive par rapport à cette problématique de l'eau potable en milieu rural.
Merci beaucoup pour la question. Ce que je dois dire, c'est que la maintenance des ouvrages en ce qui concerne l'hydraulique villageoise, c'est un vrai défi pour les pays. C'est pour cette raison qu'il faut absolument qu'au niveau du gouvernement, il y ait une vraie stratégie mise en place pour la
maintenance. C'est que pour le moment, on n'a pas cette stratégie.
Cette stratégie, pour le moment, n'existe pas. Parce que justement, lorsqu'on veut maintenir les ouvrages les plus longtemps possible, il y a trois paramètres qui entre en ligne des comptes. Le premier paramètre, c'est la qualité même de l'ouvrage qui existe. Pour cela, il faut développer les normes et les standards des ouvrages d'eau. Et comment on va aménager les sources dans notre pays? Comment on va réaliser les forages manuels? Comment on va réaliser les forages mécaniques? Comment on va réaliser les adductions? Tant que nous n'aurons pas ces normes-là, les ouvrages seront réalisés de n'importe quelle façon et leur qualité posera problème. Il faut vite attaquer cette question-là. Deuxième aspect de choses, c'est lié bien évidemment au mécanisme de maintenance. Pour maintenir un ouvrage en milieu rural, surtout les ouvrages qui sont réalisés, des pompes à motricité humaine, il faut la chaîne d'approvisionnement, des pompes, des pièces détachées. Il faut toute une stratégie pour impliquer les privés, la formation des artisans réparateurs, parce que si une pompe tombe en panne, il va falloir qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir la réparer. Tout cela entre en ligne des comptes. Les recouvrements de coûts, et tout cela entre en ligne des comptes. Il s'agit d'un paquet de mesures, et c'est le gouvernement qui doit prendre toute une stratégie en vue de la maintenance des ouvrages hydrauliques. Autrement, on ne va jamais s'en sortir, et on va voir un ouvrage aujourd'hui, 6 mois après, il n'est plus fonctionnel, six mois après, on ne sait plus les maintenir. C'est de l'argent jeté et personne n'a intérêt à voir l'argent jeté de cette façon-là.
Voilà, Sébastien Longueville, on a suivi les uns les autres. Est-ce qu'on peut, dire qu'il y a, on peut garder un peu d'optimisme pour dire qu'avec tous ces efforts, si on arrive à mettre ensemble tout ce qui a été dit dans cette émission, on peut, dans le lendemain, bien sûr, résoudre cette question de l'eau potable en milieu rural en RDC?
L'optimisme, on en a puisqu'on est là, sinon on serait plus là. Mais voilà, effectivement, le but du consortium, c'est d'aider aussi le gouvernement à construire cette stratégie à travers un retour sur notre expérience dans les différentes zones rurales dans lesquelles on travaille. pour justement pouvoir avoir une idée des normes, une idée aussi de ce qui fonctionne. Le consortium a plusieurs projets de recherche et d'innovation qui essayent d'éclairer un peu le secteur sur ces sujets-là, donc sur le changement de comportement et quelle est la meilleure manière de d'aider Merci. Les Congolais à avancer sur ce sujet. Un sujet par rapport à au choléra et aux problèmes. Dès qu'une crise de choléra intervient, tout le travail de développement est remis en cause. Et également un sujet important sur l'approvisionnement des pompes toutes les pièces détachées qui sont nécessaires pour la maintenance des pompes à main. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du consortium, c'est de supporter à travers cette approche très spécifique.
Voilà, Maître Gabin, en 20 secondes, un mot que vous placez pour terminer rapidement, parce que là, on est bousculé par la dernière minute de l'émission.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je dis qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en termes de l'environnement favorable pour permettre le développement du secteur d'approvisionnement en eau potable en République démocratique du Congo. Et la question doit être saisie à bras les corps.
Et aussi, un mot, Sébastien Longueville.
Je pense qu'il est important de savoir valoriser les compétences. Il y a énormément de compétences au Congo, mais souvent elles ne sont pas valorisées. Et comme le docteur Mavard le dit souvent, nous sommes ensemble et on va y arriver.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission consacrée, bien sûr, à la problématique de l'eau potable en milieu rural. Bon.
Allô? Mais il ne répond pas.
On se retrouve le lundi à 11h30, minute heure de Kinshasa. La société civile du Katanga demande aux gouvernements provinciaux, aux députés provinciaux et aux sénateurs de démissionner, ce qui obligerait la CENI à organiser les élections provinciales et sénatoriales dans un bref délai. Pour les coordonnateurs et porte-parole du cadre de concertation de la société civile du Katanga, ces institutions sont largement hors mandat. Elles calculent la feuille de route de la CENI qui prévoit par exemple l'élection de gouverneur en 2017, d'un moins réaliste et inconstitutionnel. Commentez-vous ces plaidoyers de la société civile du Katanga. On se retrouve le lundi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Pour le moment, je vous souhaite un agréable week-end en compagnie de Radio Kapi. Au revoir.